Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce à quoi les retraites des pigistes ressembleront. Un texte de Camille Lopez, paru le 15 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Comment planifier nos vieux jours quand notre présent est pavé d'incertitudes? Déjà tributaires de la demande extérieure, les adeptes du travail autonome doivent aussi aller au-devant des choses en matière d'épargne. 5 d'entre eux et elles partagent leurs trucs réalistes pour mettre de l'argent de côté, un chèque à la fois. Indignation, manifestation, feu de poubelle. En France, la réforme des retraites, dont la mesure principale repousse l'âge de départ à 64 ans, est accueillie avec colère et soulèvement. À la télé, les images des rues françaises occupées par les indignés passent en boucle. Entre amis pigistes, assis, assises autour d'une table, le sujet est donc naturellement soulevé. Mais la seule mention d'une préparation à la retraite est accueillie par des rires nerveux. Et la conversation bifurque rapidement. Plusieurs vous le diront d'emblée. Je ne pense pas pouvoir me permettre d'arrêter de travailler. Vous voulez tuer une conversation et casser le party? Parlez de REER à des pigistes. Pour plusieurs, aborder le sujet revient à tourner le fer dans la plaie. Après tout, ils et elles n'ont pas le privilège de travailler pour une entreprise qui cotise pour leur retraite 2 fois par mois. Il vaut toutefois la peine de prendre le temps de s'en parler. Après quelques conversations sur le sujet, on en ressort avec une liste bien garnie de trucs et astuces afin d'épargner pour l'avenir. En voici quelques-uns. Joël, photographe à son compte. Je me renseigne vraiment beaucoup. Par exemple, j'assiste à des formations données par ma banque et j'utilise des outils en ligne, comme le calculateur de retraite de Desjardins, pour m'enligner. Si vous pouvez vous le permettre, tenir compte du calcul de vos cotisations pour la retraite dans les prix de vos produits et services. Quand je me suis lancée en affaires, j'ai fait une projection du revenu dont j'aurais besoin pour cotiser comme un employeur. J'ai fait des recherches sur les assurances, les cotisations pour la retraite et pour les congés de maternité. Puis, j'ai établi mes tarifs en fonction. Choisir une assurance-vie remboursable. Certaines assurances vous remboursent une partie de l'argent investi après quelques années. Pendant 10 ans, je peux déduire le coût de mon assurance, de mes impôts et de mes taxes. Puis, lorsque je serai remboursé, je placerai probablement cet argent dans mes REER. Un conjoint-conjointe peut placer de l'argent dans des REER en votre nom. Une année, si mon conjoint a cotisé au maximum dans ses REER, il peut en placer à mon nom. Lui, ça lui permet de faire baisser son revenu pour les impôts. Attendre la fin de l'année avant de contribuer à ses REER. Joël met de côté 45 % de ses revenus dans un deuxième compte. Une bonne partie de ce montant est réservée à sa retraite, mais aussi aux imprévus. En attendant à la dernière minute pour acheter des REER, elle se donne assez de jeu pour y puiser en cas d'urgence. Scénario idéal, elle n'a pas à y toucher et peut tout mettre de côté pour sa retraite. Nicolas, éditeur pigiste. Au fil du temps, j'ai compris le bien fondé d'épargner. C'était un univers complètement inimaginable d'avoir une pension jusqu'à la fin de ma vie. Investir dans le REER plus au Fonds des travailleurs du Québec, FTQ. En achetant des actions du FTQ, Nicolas reçoit des crédits d'impôt supplémentaires de 30 %. Cotiser pour faire baisser son revenu et payer moins d'impôts. Je ne pense pas que j'aurais acheté des REER s'il n'y avait eu d'avantages fiscaux. Si tu ne cotises pas, ça va te coûter une beurrée. En effet, cotiser à un REER est une bonne stratégie pour faire baisser son revenu imposable. Pascal, sculptrice et peintre. Perdre mon emploi avec la pandémie m'a fait prendre conscience de la précarité dans laquelle je me trouvais en vivant de chèque de paye en chèque de paye. C'est là que j'ai décidé que ça s'arrêtait pour de bon. Rembourser ses dettes avant d'épargner. Rendu à zéro, j'ai continué d'économiser. L'espace que j'ai récupéré dans ma tête à ne plus craindre la fin du mois, je l'ai affecté à la création. Ce qui, finalement, s'est traduit en vente jusqu'à ce que ma pratique artistique soit complètement financée. Investir dans un CELI, puis, à la fin de l'année, transférer vers un REER le montant qui réduira le plus possible les impôts à payer. Je cotise mensuellement au CELI, même si c'est un petit montant, mais j'essaie de maximiser mes économies. Avoir plusieurs sources de revenus. Je suis artiste à mon compte et je complète avec un emploi en restauration, le classique. Je crée des œuvres originales, mais je fais énormément de commandes spéciales. Julie, designer de produits numériques. Je n'avais aucune source d'argent quand la pandémie est arrivée. Je suis partie à mon compte et ça a été un tour de force pour économiser. Après un an à être travailleuse autonome, je me suis incorporée. Depuis, j'ai construit une équipe de 12 personnes. Prendre rendez-vous avec un conseiller, conseillère financier pour établir un plan de match et avoir de l'aide et des conseils en matière de placement, c'est inévitable. Investir dans un CELI, puis réserver les profits pour sa retraite. Quand j'étais travailleuse autonome, je mettais le montant prévu de mes impôts dans un CELI à risque moyen élevé afin de faire un peu de profit. Je ne touchais pas aux profits, je les réservais pour, le moment venu, les placer dans un REER. Profiter des remboursements des dépenses. En tant que travailleuse autonome, mes dépenses liées à la maison, au travail et à la voiture sont déductibles d'impôts. On peut aussi se faire rembourser une partie des taxes. Ces retours, Julie les met de côté pour sa retraite. Stéphane, journaliste pigiste, auteur et conférencier. La retraite est un processus normal dans la vie et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de rêve, de planification et de contrôle. Il faut savoir ce que tu veux faire de ta vie avant de commencer à planifier tes finances. Planifier ses voyages et ses grands projets des décennies à l'avance. Que veux-tu faire de ta vie pendant ta retraite? Si je sais que je veux aller faire du vélo en Amérique du Sud pendant 9 mois en 2052, je vais magasiner aujourd'hui mon voyage, calculer le montant et y ajouter environ 4 % d'inflation. Je connais donc la somme à économiser. Ne pas laisser dormir son argent. Il faut choisir le bon moyen d'épargner et ne pas laisser dormir de l'argent dans un compte épargne. Il faut donc prendre des risques calculés et investir en bourse. Si tu ne t'y connais pas beaucoup en placement, n'importe quel conseiller financier va te guider. Camille Lopez est journaliste indépendante et recherchiste. Elle s'intéresse à la désinformation, à l'éducation aux médias et à la Gaspésie, sa terre d'adoption depuis 2020. C'était ce à quoi les retraites des pigistes ressembleront. Un texte de Camille Lopez, paru le 15 mai 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Une caserne alimentée par le soleil. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 17 juillet 2023 dans la presse. Avec 6 immenses portes de carrage rouge pompier. La nouvelle caserne de Lac-Mégantic est l'un des bâtiments les plus impressionnants de la municipalité. Ses attraits les plus époustouflants sont pourtant invisibles de la rue, puisqu'il s'agit de la première caserne coiffée de panneaux solaires au Québec. Visite guidée. À Lac-Mégantic, dans ce bâtiment à l'usage des pompiers, c'est par une échelle qu'on accède au sommet de l'édifice. En sortant par la trappe qui débouche sur le toit, on se retrouve dans une petite mer de panneaux solaires, 144 plaques sombres, miroitant même par temps couvert. Ce sont des panneaux bifaciaux. Les premiers à Lac-Mégantic, souligne Mathieu Pépin, chargé de projet en transition énergétique à la ville de Lac-Mégantic. Si la membrane de la toiture est claire, ce n'est pas seulement pour éviter de créer un îlot de chaleur. Elle réfléchit les rayons solaires qui viennent ainsi frapper le dessous des panneaux, également générateur d'électricité, en comparaison des panneaux monofaciaux traditionnels dont seule la face supérieure peut s'activer. L'efficacité est améliorée d'environ 30%, explique M. Pépin. À un étage plus bas, dans une petite pièce ressemblant à une salle de serveur, des batteries permettent d'emmagasiner cette énergie captée du ciel. Si un tel système combinant panneaux solaires et batteries frappe l'imagination, ce n'est pas la mesure la plus rentable dans le contexte québécois, précise le spécialiste en transition énergétique. Le coût de l'électricité est tellement bas qu'on peut parler d'un retour sur l'investissement de plus de 15 ans sur le panneau solaire, alors que sa durée de vie est de 15 à 20 ans. Efficacité énergétique. Pour augmenter l'efficacité énergétique, il faut commencer par rehausser l'enveloppe du bâtiment. La meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Meilleure est l'isolation, moins on a besoin de chauffer les lieux, illustre M. Pépin en attirant notre attention sur l'épaisseur des murs. La mécanique de ce bâtiment contribue aussi à sa performance. Le vaste garage est équipé d'un plancher radiant. Cela rehausse la sensation de chaleur et permet même de l'abaisser un peu sans avoir l'impression que c'est moins confortable. Un système de récupération de la chaleur et des thermopompes permettent aussi de réduire la quantité d'énergie requise pour tempérer l'air frais amené de l'extérieur pour ventiler la bâtisse. Des systèmes de contrôle aident aussi à gérer les appels de puissance, la consommation d'énergie à des moments précis, qui ont un impact sur la facturation. En comparaison avec un bâtiment répondant aux exigences minimales, cette caserne pourrait consommer jusqu'à 20% de moins d'énergie et la facture d'électricité s'en trouverait allégée de plusieurs milliers de dollars par an, suggèrent des estimations préliminaires. Quant à sa production d'énergie solaire, elle atteindrait 82,35 MWh par an, avec un pic mensuel de 9,6 MWh en juillet. Relié au micro-réseau. Cette caserne est le plus récent ajout au micro-réseau électrique du centre-ville de Lac-Mégantic, mis en service par Hydro-Québec à la fin de 2020. Ce projet intègre une trentaine de bâtiments coiffés de quelque 2200 panneaux solaires, dont environ 1700 sur le toit du centre sportif. Ce parc solaire, en hauteur, totalise près de 800 kW de puissance installée, auquel s'ajoute un système de stockage pouvant emmagasiner environ 700 kWh. Toute cette énergie contribue à alimenter les bâtiments et installations reliées au micro-réseau, dont l'éclairage urbain situé à l'intérieur du périmètre. Même par temps pluvieux, le solaire fournit jusqu'à 31% de l'énergie consommée par les bâtiments du réseau, avons-nous pu constater sur l'écran de données en temps réel, installé au centre-ville. Par beau temps estival, ça peut atteindre 100%. Dans la semaine précédant notre visite, au début de juin, il y a eu deux belles journées où on a été en opération d'îlotage. Donc, complètement déconnecté du réseau principal d'Hydro-Québec, s'enthousiasme M. Pépin. Par l'une des fenêtres de la caserne, il nous montre une puissante borne de 180 kW pour les véhicules électriques, près de la vieille gare. Une borne de recharge rapide connectée, elle aussi, au micro-réseau. Donc, quand on est en îlotage, on peut dire que l'énergie que tu mets dans ta voiture provient du soleil. Je trouve ça génial, s'exclame le chargé de projet. Le circuit électrique d'Hydro-Québec compte seulement une vingtaine de ses bornes de 180 kW dans toute la province, et Lac-Mégantic a été la troisième ville à en avoir une après Trois-Rivières et Stoneham dans la région de Québec. Nous, dans le fond du creux du Québec, on vient de prouver que tu peux te rendre sans problème. C'est un symbole fort. C'était une caserne alimentée par le soleil. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 17 juillet 2023 dans la presse.
Le parfum de la mobilisation. Trois-Rivières, Mauricie. Un texte de Stéphanie Dufresne, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Stéphanie Dufresne enquête sur la qualité de l'air en trifluvie. Il n'y a pas si longtemps, les automobilistes en transit sur la 40 entre Montréal et Québec pouvaient percevoir les effluves des papetières de Trois-Rivières. Je me souviens, adolescente, de personnes en visite qui trouvaient que la ville sentait les légumes trop bouillis. Une comparaison polie, car à la maison, on parlait plutôt d'œufs pourris. Aujourd'hui, il est plus rare que l'odeur aille jusqu'à l'autoroute, mais dans les quartiers populaires, elle fait encore partie de la réalité quotidienne. Ces relents proviennent des composés de soufre qui se dégagent de la pâte chimique servant à fabriquer le papier d'emballage brun nommé papier Kraft et que l'usine de pâte et papier Kruger-Wayagamack est autorisée à rejeter dans l'air à un taux deux fois plus élevé que le permet le règlement provincial. Elle se retrouve ainsi aux côtés de la fonderie Horn sur la liste, dévoilée fin août par le ministre québécois de l'Environnement, des 8 entreprises québécoises autorisées à contrevenir à certaines normes environnementales. Malgré la nuisance olfactive, peu de résultats scientifiques démontrent que les composés soufrés rejetés dans l'air ont des effets significatifs sur la santé ou sur l'environnement, m'explique Audrey Smargiassi, chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter? Pas nécessairement. L'usine recrache de nombreuses autres substances et, même si le niveau de chacune ne dépasse pas les normes, le mélange de contaminants toxiques auxquels la population pourrait être exposée est potentiellement plus préoccupant pour la santé que les seuls composés soufrés, indique-t-elle. À Trois-Rivières, les émanations suscitent des contestations populaires depuis le début du XXe siècle, alors que la ville, qu'on appelait la capitale mondiale du papier, était encerclée par 4 papetières malodorantes. Aujourd'hui, il n'en reste que 2 qui appartiennent à Kruger, et l'amélioration des procédés de production a réduit considérablement les odeurs, maintenant circonscrites autour des usines. Mais devant la difficulté à obtenir des données publiques sur la qualité de l'air, des citoyens et citoyennes des secteurs Saint-Philippe et Cap de la Madeleine, adjacents aux deux usines, se sont regroupés pour agir. À l'instar des démarches entreprises par les comités de citoyens et citoyennes de Limoilou, Rouyn-Noranda et Port-Daniel, ils et elles ont installé une douzaine de capteurs qui mesurent la densité de particules dans l'air sur leur territoire. Au-delà des odeurs de soufre, c'est l'addition de tous les composés rejetés par les différentes activités industrielles qui les préoccupe. Quand les vents viennent de l'est, les résidents du centre-ville se font poivrer par la Kruger-Wayagamack, et quand les vents viennent de l'ouest, ils se font poivrer par l'usine Kruger de Trois-Rivières et par les activités portuaires, raconte Réal Proux, porte-parole du comité. Une situation d'autant plus troublante, selon lui, que l'administration portuaire prévoit bientôt des travaux d'agrandissement majeurs. Le conseiller municipal Danny Carpentier a lui aussi installé un capteur à son domicile. Il s'inquiète de constater que l'espérance de vie dans Saint-Philippe est de 15 ans inférieure à la moyenne trifluvienne. Lauriane Dano, directrice générale du Conseil régional de l'environnement Mauricie, croit que le ministère de l'Environnement devrait divulguer les données dont il dispose. La population craint la complaisance envers l'industrie. Le lien de confiance s'effrite, observe-t-elle. En l'absence de réponse collective, le mécontentement, plus subtilement que l'odeur du soufre, commence ainsi à se faire sentir en trifluvie. Stéphanie Dufresne est géographe spécialisée en environnement. Elle documente la transition socio-écologique de sa région comme journaliste à la Gazette de la Mauricie. C'était « Le parfum de la mobilisation, Trois-Rivières, Mauricie », un texte de Stéphanie Dufresne paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Peut-on boire trop d'eau? Un texte de Jacqueline Simoneau paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge. Boire de trop grandes quantités d'eau, c'est mauvais. Le fait de boire constamment peut causer une hyperhydratation. Cette dernière se produit lorsque l'organisme absorbe plus d'eau qu'il n'en élimine, explique Isabelle Huot, docteur en nutrition. Le hic, l'excès d'eau peut engendrer une hyponatrémie, soit une diminution de la concentration de sodium dans le sang. Lorsque le sodium baisse trop, l'eau s'infiltre dans les cellules, y compris celles du cerveau, et provoque des œdèmes, ce qui peut entraîner de graves conséquences. L'hyponatrémie survient le plus souvent chez les athlètes, notamment les marathoniens et les personnes souffrant de certaines pathologies telles que l'insuffisance rénale ou cardiaque. Parmi les symptômes associés à l'hyponatrémie, maux de tête, nausées, vomissements, léthargie, confusion, spasmes musculaires et convulsions. Cela dit, la quantité d'eau à consommer au quotidien varie en fonction de l'âge, du sexe, de la taille, du niveau d'activité physique, de la température et de l'humidité ambiante et de la présence de certains symptômes comme la fièvre, selon Isabelle Huot. Voici tout de même un aperçu des apports suffisants de liquide recommandés, excluant l'eau dans les aliments. 3 litres par jour pour les hommes de 19 ans et plus et 2,2 litres par jour pour les femmes du même groupe d'âge. C'était « Peut-on boire trop d'eau? » un texte de Jacqueline Simoneau paru en juin 2023 dans le magazine Bel Âge.
Entreprendre pour s'émanciper. Porto Novo, Bénin. Un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Myriane Demers-Lemay rencontre des Béninoises qui défient les rôles traditionnels. Je mets mon casque et j'enfourche la moto-taxi. Au Bénin, les voitures sont rares. Tout le monde se déplace en moto, généralement sans casque ni assurance vie. On transporte des chaises, des chèvres, des cercueils. Sur le siège passager s'entasse souvent une famille entière. Siré à Issouvou me conduit dans le dédale de routes d'asphalte et de terre de Porto Novo, la capitale du petit pays d'Afrique de l'Ouest. Elle travaille comme animatrice pour le réseau d'appui aux initiatives locales, une ONG béninoise qui participe à un nouveau projet soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et par la Fondation Paul Gérin-Lajoie afin de consolider l'entrepreneuriat féminin. À travers la ville, de nombreuses béninoises ont lancé de petites entreprises ces dernières années. Un exploit dans cette société patriarcale. Traditionnellement, la femme béninoise s'occupe du foyer tandis que l'homme travaille à l'extérieur. Mais la pandémie de COVID-19 et la crise économique engendrée par la guerre en Ukraine ont poussé les femmes à créer leur entreprise ou à s'organiser en coopérative afin de joindre les deux bouts et de faire rouler une économie dominée à 85% par le secteur informel. Dans une ruelle cabossée, Siri se stationne devant le portail d'un atelier. Les membres de la coopérative Batik d'Or, l'un des projets soutenus par l'ONG et ses partenaires canadiens, nous accueillent. Les femmes déplient un long tissu blanc sur une table, à côté de laquelle elles font fondre de la cire. Béatrice Kounou, la présidente de l'association, trempe une estampe dans la cire bouillante avant de l'appliquer sur le tissu. Le petit groupe de couturières fabrique ainsi des batiks suivant une technique d'origine indonésienne extrêmement populaire en Afrique de l'Ouest. Quand on a un peu d'argent, on est heureuse. Ça nous permet de soutenir le mari dans le foyer, commente Béatrice avec son accent chantant. Mais les défis sont nombreux pour ces femmes qui ont un accès très limité au capital. Pour les aider à surmonter cet obstacle structurel, des ONG nationales comme le RAI et l'Association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles ont formé depuis 2022 plus de 700 Béninoises à l'entrepreneuriat et leur permettent d'accéder à l'équipement dont elles ont besoin pour fabriquer leurs produits. Les bénéficiaires apprennent aussi à faire un plan d'affaires, de la gestion comptable, du marketing et à utiliser les plateformes numériques. Pour faire évoluer les mentalités concernant le partage des tâches domestiques au sein des couples, les ONG donnent également des ateliers sur la masculinité positive, en incluant les conjoints dans le processus. Devant moi, les membres de la coopérative Batik d'Or plongent le tissu blanc dans une teinture verte. En quelques minutes, la couleur apparaît sous les motifs de cire. Pendant que l'étoffe sèche, je ne peux m'empêcher de penser que le procédé représente bien ces femmes qui, étape par étape, transforme le tissu social béninois. Je repars déjà en moto pour visiter un autre lieu. Ailleurs dans la ville, d'autres femmes prennent elles aussi leur destin en main. Myriane Demers-Lemay est une journaliste indépendante établie en Turquie. Elle a réalisé des reportages sur les femmes entrepreneuses au Bénin grâce à une bourse de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Sa correspondance d'Espagne, Destination en transition, est paru dans Nouveau projet numéro 21. C'était Entreprendre pour s'émanciper. Porto Novo, Bénin. Un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet.